13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, le nombre de chômeurs catégorie A au plus bas en France depuis près de 10 ans. Diminution de plus de 12% l'année dernière. Les chiffres baissent aussi pour les autres catégories. D'autres ne baissent pas. Ce sont ceux de l'épidémie de Covid. Plus de 500 000 contaminations hier. Quel levier ? Le taux de vaccination chez les enfants reste extrêmement bas. Les nominations pour les Césars, les films Illusion perdue, Annette et Aline sont fréquemment nommés. Catégorie meilleur film ou réalisation, 3 femmes parmi les nommées. Et pour les sorties du jour, nous aurons la sélection de Corinne Pélissier. Faut-il plus d'investissements publics pour l'université ? Faut-il augmenter les frais d'inscription ? Emmanuel Macron appelle à une réforme systémique. Ce sera notre sujet à 13h30 avec une économiste qui vient de publier une synthèse sur le sujet et le président de France Université. J'attends vos questions 01 45 24 7000 et l'appli France Inter sur l'université. Dans l'actualité encore, le scandale des maisons de retraite Orpea, obsession rentabilité jusqu'à maltraiter les résidents selon un livre enquête. Question à la défenseur des droits, Claire Hédon. Appel à la grève chez EDF contre la vente d'électricité pas chère aux concurrents pour limiter la facture. Changer de nom plus facilement, proposition de loi à l'Assemblée, nous vous dirons ce qu'elle contient. Et puis vos rendez-vous dans le 13-14, comment faire le lien entre la Silicon Valley et la Russie du 19e siècle. C'est le défi du jour pour Jean Lebrun dans le vif de l'histoire. Et dans C'est une chanson, Mathieu Bogarts, une bonne nouvelle. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Le nombre de chômeurs a nettement baissé l'année dernière. Catégorie A, sans activité, il est au plus bas depuis fin 2012. 3 335 600 chômeurs. La baisse est de près de 500 000 en un an, 12%, 6% au dernier trimestre. Pôle emploi a diffusé les chiffres ce matin. Ils traduisent forcément une compensation après l'année 2020 très particulière. Dans les autres catégories, chômeurs avec activité partielle, cela baisse également. Mathieu Plane est le directeur adjoint de l'Observatoire français des conjonctures économiques.
On a une forte résilience du marché du travail hein, à travers cette crise. Plutôt des bonnes surprises. Déjà, dès le troisième trimestre, on avait déjà atteint un niveau d'emploi supérieur à celui d'avant crise, puisqu'on avait près de 200 000 emplois de plus en niveau, c'est-à-dire en stock d'emplois. Un taux de chômage qui était revenu à peu près à son niveau d'avant crise. Et on voit que les chiffres du quatrième trimestre confirme cette tendance, c'est-à-dire que on a une baisse continue du chômage qui est significative, et ça c'est vraiment une bonne chose. Et donc on retrouve des niveaux d'avant-crise beaucoup plus vite que prévu, et même on est en termes d'emploi à des niveaux supérieurs à ceux d'avant-crise. La question qui se pose, c'est même comment se fait-il que l'économie française crée autant d'emplois avec finalement une activité dans certains secteurs comme le commerce ou la restauration ou même le BTP, on est à des niveaux d'activité qui sont encore en dessous d'avant-crise, et pourtant il y a plus d'emplois dans ces secteurs qu'avant crise. Et donc se posera la question aussi de la productivité en réalité dans ces secteurs-là, l'évolution du marché du travail dans les trimestres à venir quand la situation va se normaliser. Est-ce que ce contenu très fort en emploi, cette croissance très riche en emploi, va perdurer ou pas en réalité ?
L'économiste Mathieu Plane interrogé par Claire Chaudière. Toutes catégories confondues, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi est de 5 700 000. Autre rubrique, autre chiffre. Certes, le variant Omicron est moins dangereux que ses prédécesseurs. Certes, le nombre des admissions en soins critiques à l'hôpital reste contenu. Et certes, plus de 90% des 12 ans et plus sont complètement vaccinés. Mais l'épidémie version Omicron est toujours là et bien là. Selon le fondateur du site de référence Covid Tracker, plus de 7 millions de Français, 1 sur 10, a été testé positif depuis le début de l'année. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
Contamination, hospitalisation, alors qu'on espérait passer le pic en fin de semaine dernière, eh bien on reste à des niveaux très élevés.
Du jamais vu même, depuis le début de la pandémie, le nombre de contaminations des dernières 24 heures est de 500 à 1000. C'est 8% qu'il y a de plus qu'il y a une semaine. Et vous le disiez, un Français sur 10 a attrapé le Covid, avec symptômes ou pas depuis le début de l'année. Le taux de positivité continue de grimper. À l'hôpital, beaucoup de malades du Covid, 30 000, avec 2800 entrées par jour. On atteint les niveaux de la deuxième vague à l'automne 2020. Ces statistiques finissent par troubler même les experts. Le mieux espéré mi-mars par le président du Conseil scientifique Jean-François Delfraissy est-il réaliste ? Quels indicateurs prendre en compte pour orienter la boussole de la politique sanitaire ? Depuis depuis le début, les épidémiologistes insistent sur le fait qu'il en faut plusieurs observés simultanément. Mais faute de pouvoir prédire l'allure des courbes et l'arrivée de nouveaux variants, c'est finalement la situation à l'hôpital qui reste le cap. C'est le critère mis en avant d'ailleurs dans les modélisations. Le choix de lever certaines restrictions mardi prochain relève de ce constat. Face aux statistiques records, les digues tiennent grâce à la vaccination et la moindre sévérité d'Omicron.
Alors cela dit, s'agissant de la vaccination des 5-11 ans, elle ne décolle toujours pas.
La DGS rappelait hier que seuls 3,8% des enfants éligibles avaient reçu leur première dose et chez les immunodéprimés ou les fragiles, c'est même un point de moins. Alain Fischer, l'Académie de médecine, l'Académie des sciences ont désormais le même message relayé par des épidémiologistes de Romont. Il faut y aller, ne plus hésiter. En milieu scolaire et familial, et parce qu'il est 3 fois plus contagieux que le précédent variant, Omicron galope. Sur la base des observations aux États-Unis et en Israël, 10 millions d'enfants, le rapport bénéfice-risque de la vaccination est positif, disent-ils, au plan individuel. Ils appellent donc à vacciner plus vite les 5-11 ans.
Le risque global lié à Omicron reste très élevé, alerte l'Organisation mondiale de la santé. En France, vous le disiez, Sophie, c'est à partir de mercredi prochain que les mesures anti-Covid doivent être allégées. Est-ce qu'on va reprocher au gouvernement de baisser la garde trop tôt? Exemple à l'étranger, au Danemark, malgré un nombre de contaminations record, l'allègement des mesures reste programmé mardi prochain. Le pouvoir estime que la forte couverture vaccinale est une protection suffisante. En Allemagne, débat sur l'obligation vaccinale pour une partie, voire toute la population aujourd'hui au Parlement. Ceux qui y sont opposés doivent manifester devant le Bundestag. Plus de 21 millions de nouveaux cas ont été enregistrés dans le monde ces 7 derniers jours, selon l'OMS. C'est un record depuis le début de la pandémie. Pandémie qui dure depuis 2 ans. Et provoque la fatigue des soignants. On vous donnait ces chiffres il y a quelques jours dans ce journal. 33 000 démissions ont été enregistrées l'été dernier au sein du service de santé britannique. Et cette hémorragie massive mérite qu'on s'y arrête avec Richard Place, le correspondant de France Inter à Londres.
Il y a un an, son médecin diagnostique chez lui un syndrome post-traumatique. John prend des antidépresseurs et il a du mal à se concentrer, des trous de mémoire inhabituels. À l'hôpital de Sheffield, cet infirmier a été mobilisé pour aider les malades du Covid. Il décrit un rythme infernal comme il n'en avait jamais connu en 20 ans dans les services de santé anglais. Il a fini par quitter le travail dont il avait pourtant toujours rêvé.
J'ai réalisé que je ne suis pas un magicien, je ne suis pas David Copperfield, je ne pouvais pas continuer comme ça. Tout s'effondrait autour de moi, mon mariage s'écroulait, j'étais en mode autodestruction. Il fallait prendre cette décision pour ma santé mentale, mais aussi pour ma famille, mes amis. Alors, un jour, en pleine réunion, je me suis levé et je suis parti en disant « Désolé, je ne peux pas continuer ». C'était un choix difficile, mais c'était le bon à ce moment-là.
Cet ancien responsable syndical en veut énormément au gouvernement, qui ne donne pas suffisamment de moyens aux professionnels de santé, selon lui. Aujourd'hui, il s'est reconverti et aide les handicapés à s'insérer professionnellement, mais il trimballe avec lui un sentiment de culpabilité, celui d'avoir quitté un navire en train de couler, ce sont ses propres mots. Londres, Richard Place, France Inter.
Et par ailleurs, Boris Johnson affronte en ce moment les questions des députés au Parlement de Londres. On attend toujours le rapport sur les fêtes à Downing Street pendant les confinements. L'actualité en matière de santé, c'est aussi ce scandale qui éclate avec la publication du livre « Les Fossoyeurs ». Son auteur, le journaliste Victor Castanet, était notre invité hier. L'entretien est à réécouter sur franceinter.fr. C'est une enquête très fouillée sur le numéro 1 mondial des maisons de retraite, le groupe français Orpea, accusé de maltraitance de certains résidents à force de privilégier la rentabilité. Le mal-être des personnels des maisons de retraite est aussi longuement évoqué. Et la classe politique s'empare du sujet. Marine Le Pen demande la création d'une commission d'enquête parlementaire. Les députés socialistes veulent obtenir un droit de visite à l'improviste pour contrôler ce qui se passe dans les EHPAD. La ministre en charge de l'autonomie convoque dans les plus brefs délais le directeur général d'Orpea. Brigitte Bourguignon va demander une enquête administrative flash sur un établissement du groupe particulièrement mis en cause dans le livre, les Bords de Seine à Neuilly. Il y est question d'une résidente retrouvée couverte de bleu, d'un autre enfermé dans sa chambre, d'un rationnement des couches et des biscottes. Bonjour Anne Orenstein.
Bonjour Bruno.
Anne, en particulier, la ministre veut en savoir plus sur une première mission de contrôle menée en 2018.
Oui, après 2 signalements d'actes de maltraitance et de défauts de soins sur une résidente en 2017, l'Agence régionale de santé d'Île-de-France déclenche en juillet 2018 une enquête sur cet EHPAD Orpea de Neuilly-sur-Seine. L'enquête va durer 6 mois et elle débouche sur un rapport signé en février 2019. Après une procédure contradictoire avec la direction d'Orpea, des recommandations sont faites, notamment, selon nos informations, l'augmentation immédiate du nombre de médecins et un nouveau protocole d'intervention des auxiliaires de vie.
Et l'objectif de l'enquête flash, Anne, que la ministre donc évoque, c'est de savoir si ces recommandations ont été ou non mises en œuvre.
Oui, d'ailleurs, l'enquête a déjà commencé. Le résultat devrait être sur le bureau de la ministre la semaine prochaine. C'est aussi la semaine prochaine, en début de semaine, que le directeur général d'Orpea sera convoqué. Il faut savoir que Brigitte Bourguignon est actuellement à l'isolement pour Covid et ce n'est pas le genre de rendez-vous qui se fait en visio. Une enquête de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, sera diligentée dans la foulée. La question finalement étant de savoir si l'EHPAD des Bords de Seine est une brebis galeuse ou si on a affaire à un cancer généralisé.
Invité de ce journal, la Défenseure des Droits. Bonjour Claire Hédon.
Bonjour Bruno Duvic.
Vous n'avez pas dû être surprise par ce qui éclate depuis hier et ce livre Les Fossoyeurs. Vous aviez rendu une décision en décembre 2019 à propos d'Orpea.
D'abord, toutes mes pensées vont aux résidents, aux personnes âgées qui résident dans ces EHPAD et à leurs familles. Et l'institution du Défenseur des Droits est l'autorité compétente sur le respect des droits fondamentaux des personnes âgées. Et donc, nous avons déjà été saisis. Si je prends en 6 ans, on a à peu près 900 saisies sur des questions de maltraitance. Et vous avez raison, nous avons rendu une décision le 30 décembre 2019 suite à une enquête que nous avons menée, des enquêtes que nous menons quand nous sommes saisis par une famille, ouais. C'était le cas. Et nous avons auditionné les parties prenantes, nous avons fait une visite surprise et puis on a aussi demandé des informations aux organes de contrôle. Ouais. Et effectivement, nous avons conclu à des atteintes aux droits fondamentaux et à la dignité des personnes. Et nous avons fait un certain nombre de recommandations et dont des recommandations de contrôle. Et je voudrais insister sur cette question-là. C'est important que l'Agence régionale de santé, le Conseil départemental, effectue des contrôles et c'est ce que nous avions recommandé. Si vous permettez, nous avons aussi, au mois de mai, quand on a vu finalement ce genre de réclamation aller en augmentant, il ne s'agit pas à chaque fois de résoudre simplement au cas par cas, mais de dire aussi ce que nous observons et nos recommandations. Nous avons rendu un rapport début mai sur les droits fondamentaux des personnes accueillies en EHPAD. Nous avons fait un certain nombre de recommandations, et dont une recommandation phare, qui est un minimum d'encadrement et de salariés pour s'occuper de ces personnes âgées. Et le ratio de personnel que nous demandons est de 8 personnels pour 10 résidents. Sachez qu'en Allemagne, c'est 10 pour 10. Donc la demande de 8 sur 10 n'a rien d'extravagant. Nous ne résoudrons pas les problèmes de maltraitance tant que nous n'aurons pas ce ratio. On est dans quelque chose de très concret. Il faut suffisamment de personnes pour bien traiter les personnes âgées. Quelle est notre boussole dans tout ça? Le respect des droits et de la dignité des personnes âgées. Ça demande du personnel. Si vous n'avez pas suffisamment de personnel, vous mettez ces personnels en situation de maltraitance. J'insiste là-dessus parce que c'est une décision qui est pas très compliquée. Oui, elle a un coût. Mais quel justement coût, quel argent on est prêt à mettre pour respecter les droits et dignité des personnes âgées? La question, elle est là. Tant que nous n'aurons pas ce ratio, nous n'y arriverons pas.
Vous parliez de la question des contrôles. Ce qui apparaît dans le livre Les Fossoyeurs, c'est que les inspecteurs, que ce soit de l'ARS, que ce soit du conseil départemental, les différents inspecteurs se font facilement balader, qu'au fond, il n'y a pas le niveau peut-être de contrôle effectif sur le moment et de suivi ensuite. La question du contrôle, elle est clé.
Mais vous avez tout à fait raison, c'est à la fois le contrôle et le suivi et le contrôle inopiné. Parce qu'évidemment, si vous prévenez que vous arrivez avant, c'est pas possible, il faut que le contrôle soit inopiné. Il y a déjà des contrôles qui existent globalement sur les départements, on voit entre 7 et 70 contrôles. Mais ils ne sont pas suffisants, ils doivent être inopinés si on veut qu'ils soient effectifs et suivis. C'est-à-dire à partir de... Mais c'est aussi pour nous. À partir du moment où on fait des recommandations, quel suivi il y a de nos recommandations? Et donc moi je dis, mais finalement, suivre les conseils et les recommandations de l'institution du Défenseur des Droits peut être utile pour le respect des personnes.
Vous parliez du taux d'encadrement, est-ce que c'est le genre de détail qu'il faut aller jusqu'à inscrire dans une loi si on n'arrive pas à avancer autrement?
Mais je pense que oui. Je pense qu'à partir d'un moment, il y a un certain nombre de principes qui doivent être établis. Alors, cette question du ratio de personnel, elle est indispensable. Il y a aussi une question de formation initiale et continue à la bientraitance. Il y a aussi une question d'information. Quand il y a des événements indésirables, des événements graves, quel suivi y a-t-il? Comment la direction informe les familles? Il faut plus de dialogue, plus d'échanges. La médiation est aussi un des moyens. Dans nos recommandations, il y avait par exemple aussi la question de la présence d'une infirmière de nuit. Là, nous avons été suivis. Ça y est, c'est quelque chose qui va devenir obligatoire, la présence d'infirmières de nuit. Mais vous voyez, je reviens, cette question du ratio est juste indispensable. Et là, il faut effectivement à un moment un courage politique, un courage courage d'investissement financier.
Il nous reste une poignée de secondes. Vous parliez de votre document en mai dernier sur les réclamations dans le secteur médico-social. 80% mettaient en cause des EHPAD, entre 700 et 750. Est-ce que la plupart concernent des EHPAD privés, puisque là, Orpea, on parle d'un groupe privé avec une tension entre rentabilité et nécessité de soins, ou ça concerne tout type d'EHPAD ?
Les deux, public et privé. Et je vous redis, notre boussole, la seule boussole possible, c'est le respect des droits et de la dignité des personnes.
Merci Claire Hédon d'être passée dans les studios de France Inter. Avec ce scandale, l'opposition trouve un angle d'attaque contre Emmanuel Macron. Il n'y a pas de lien direct, évidemment, avec ce qui est décrit dans le livre, mais le président avait promis une grande loi sur la dépendance alors que la population française vieillit. Bonjour Yael Goz.
Bonjour Bruno.
Et il n'a pas tenu promesse.
Et c'est souvent la dure loi des fins de quinquennat quand il ne reste plus que quelques mois utiles au Parlement. Sans cesse repoussé depuis son annonce en juin 2018, ce projet de loi fait les frais à l'automne dernier des ultimes arbitrages présidentiels. Le quoi qu'il en coûte a trop coûté. Grande déception à l'époque chez les professionnels et une ministre en charge obligée de manger son chapeau, Brigitte Bourguignon, en septembre 2021.
Je voulais vous dire que j'étais en charge, non pas d'une loi, mais d'une réforme. Et d'une réforme qui n'attend pas un texte pour exister.
Alors à défaut de loi grand âge, ce sont en fait des mesures financières qui sont injectées. 400 millions d'euros pour 2022, 1,3 milliard pour 2025, l'embauche de 2000 équivalents temps plein au cours des 5 prochaines années. Et puis la cinquième branche de la Sécu est créée, reste à la financer. Que fera le candidat Macron? On ne sait pas, il n'est pas encore candidat, mais très prochainement, on me l'a indiqué au gouvernement il y a quelques minutes, le dispositif MaPrimeRénov va être décliné en MaPrimeRénov Adapte pour aider les personnes qui veulent rester à domicile, à s'équiper, à changer leur baignoire, leur douche, leur escalier par exemple.
Est-ce que des candidats à la présidentielle ont des propositions fortes à propos de la dépendance ?
Oui, exproprier les EHPAD privés qui maltraitent, c'est ce que porte par exemple le communiste Fabien Roussel.
Quand on est confronté à des marchands de sommeil dans le logement, on exproprie. C'est-à-dire que s'il y a des maltraitances avérées, oui, j'exproprie. Certains font le choix de se faire du pognon sur le dos de nos aînés.
Le communiste Fabien Roussel ce matin sur France Info. Aujourd'hui, on en parle avec Claire Hédon, le ratio est de 0,24 soignants pour un résident en EHPAD. Chez Jean-Luc Mélenchon, on veut porter ce ratio à 0,6. En dessous de ce seuil, on ferme. Cela implique un effort de 8 milliards d'euros pour recruter 210 000 soignants. Sujet sur lequel Marine Le Pen se positionne, elle aussi, voilà les mesures qu'elle préconise.
Imposer un nombre de personnels minimum. Je pense qu'il faut qu'il y ait un médecin coordinateur dans tous les EHPAD, ce qui n'est pas le cas dans 30% des EHPAD au moment où nous nous parlons. Je pense qu'il faut qu'il y ait une infirmière 24 heures sur 24.
Marine Le Pen avec Élodie Forest était qu'il y a quelques minutes. À l'extrême droite, toujours, Éric Zemmour veut un plan sur 15 ans avec des contrôles plus sévères. Un vrai soutien pour les aidants à domicile. Changement radical du modèle des EHPAD, ça c'est ce que porte pour LR Valérie Pécresse. Contrôle qualité, référentiel obligatoire et publié. On associe les familles des patients au fonctionnement des EHPAD et on double les crédits d'impôt pour les services à la personne. On le voit, sujet sur lequel l'indignation est générale car en 2025, on sera en plein papy-boom. Toute une génération née après-guerre aura 80 ans.
Dans l'actualité également, un mouvement de contestation qui met d'accord, c'est rare, syndicats et directions. Ça se passe chez EDF. Le gouvernement contraint l'électricien, dont il est actionnaire à 84%, de vendre 20% d'électricité supplémentaire à bas coût à ses concurrents pour empêcher l'envolée des factures. Le coût de cette opération pour EDF est d'environ 8 milliards. Direction et syndicats trouvent la pilule amère, redoutent une fragilisation de leur entreprise. Écoutez Alain André de Force Ouvrière.
Nous, ce qu'on dit depuis longtemps, de toute façon, c'est bon, stop, faut arrêter. L'ouverture à la concurrence, c'est pas une bonne idée. Vous créez un marché dans lequel, par des décisions politiques, vous créez une tension sur l'offre. Parce que quand on ferme Fessenheim, on ferme des centrales thermiques classiques, sans penser un seul instant à mettre sur le réseau des puissances supplémentaires, ben vous savez que vous créez une tension sur l'offre. Et quand vous créez une tension sur l'offre, tout en créant un marché, ben vous faites monter les prix, c'est évident. Qu'on dise, voilà, ça n'a pas apporté à la nation les fruits escomptés, ça fait pas baisser les prix. Et nous, ce qu'on demande, c'est le retour à un EDF qui est effectivement un outil de l'État, qu'on la sorte de cette économie de marché pour satisfaire les missions au service des citoyens du pays, au service de la compétitivité et au service de la transition énergétique.
Et donc la contestation met d'accord patron et syndicat dans cette affaire. Jean-Bernard Lévy a envoyé un message interne aux salariés pour dire qu'il avait combattu la décision du gouvernement. Les relations Lévy-Bercy sont fraîches, Fabien Cazot.
Le patron d'EDF ne mâche pas ses mots en interne, parlant de véritable choc contre lequel Jean-Bernard Lévy dit s'être vivement battu, un PDG fait rare à l'unisson du corps social de son entreprise qui en veut à l'État de lui tordre le bras en l'obligeant à vendre à bas coût à ses concurrents de l'électricité achetée à prix d'or sur les marchés de gros. La situation est inédite, elle frôle le non-sens économique, glisse-t-on du côté de la direction. Sauf qu'EDF a une vocation de service public, répond Bercy, la contribution de l'électricien à l'effort national contre la flambée des prix ne devrait pas être un problème, argumente une source haut placée. Au nom de la participation que détient l'État au capital de l'entreprise à hauteur de plus de 80% et au nom des commandes de nouveaux réacteurs EPR, non confirmés pour le moment mais attendus pour les premiers mois de 2022, pas suffisant à ce stade pour apaiser la grogne qui résonne aujourd'hui dans l'ensemble du groupe EDF.
Et les propos tout à l'heure de Force Ouvrière étaient recueillis par Maureen Suignard. Demain, appel plus large des syndicats à se mobiliser sur les salaires et l'emploi. Pourra-t-on bientôt changer plus facilement de nom de famille ? Proposition de loi en débat à l'Assemblée aujourd'hui. Bonjour Jean-Philippe Degnaud.
Bonjour Bruno.
Quel en est le contenu ?
Alors, il y a deux aménagements. Le premier permettra à chaque enfant d'ajouter à son état civil le nom de l'autre parent au titre du nom d'usage. C'est dans le but de faciliter les démarches du quotidien et évitera par exemple à une mère de devoir se munir de son livret de famille pour prouver que son enfant, qui ne porte que le nom du père, est bien le sien. Le second aménagement est plus profond, il va permettre à un adulte de changer son nom une fois dans sa vie, pour prendre celui de la mère au lieu du père, ou inversement, ou de prendre les deux noms dans l'ordre qu'il souhaite. Jusqu'à présent, cette démarche devait être justifiée parce que le patronyme prête à moquerie, parce que sa prononciation engendre des complications, ou par volonté d'assurer une lignée. Cette demande était examinée ensuite, et la décision revenait à un juge au terme d'une procédure de 2 ans en moyenne. Désormais, la démarche est simplifiée, plus question de devoir se justifier, ni de dépendre d'une décision de justice. Il suffira de déposer un formulaire en mairie.
Après l'Assemblée aujourd'hui, le texte sera au Sénat le 15 février. Petit extrait sonore à présent pour vous inciter à aller lire et écouter le travail de Sébastien Sabiron sur franceinter.fr. Sébastien a recueilli des témoignages après la mise en examen la semaine dernière pour viol et agression sexuelle de Nicolas Noguier, l'ex-président du Refuge, cette fondation qui héberge des jeunes LGBT+, en rupture avec leur famille. Témoignage par exemple de Lilo Padovano, mis à la porte par ses parents à 18 ans. Il a passé 1 an au refuge. Il ne garde que de bons souvenirs de cette période, sauf un trajet en voiture, Montpellier-Nîmes, avec l'ancien président de l'association.
Dès qu'on rentre sur l'autoroute, il a commencé à me caresser le genou. Après ça, il a commencé à remonter de la cuisse jusqu'aux parties intimes, en fait. Il a fait ça tout le long du trajet, donc c'était 45 minutes de route, quoi. J'ai pas du tout réagi. Je regardais que par la fenêtre pour pas croiser son regard. J'étais juste tétanisé, en fait. J'ai pas du tout bougé, j'ai rien fait. Quand on est revenu, il a fait exactement pareil. Et du coup, dès qu'on est revenu, j'ai prévenu la travailleuse sociale qu'il y avait dans les mêmes bâtiments où on était tous hébergés. Aucune réaction, même le lendemain, il n'y a rien eu. J'ai essayé d'en parler aussi avec des amis extérieurs du refuge. Ils m'ont pas cru. C'était une personne très respectée, très aimée. Je savais que c'était une personne influente, donc... Comme j'ai vu que personne ne me croyait, j'ai commencé à me taire en fait.
Et les témoignages sont à lire et écouter sur franceinter.fr.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvic.
Beaucoup plus léger, les nominations pour les Césars 2022 ont été rendues publiques ce matin. Bien le bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour.
3 films, Alexis, sont particulièrement choyés.
Oui, avec sur la première marche du podium, Les Illusions Perdues.
Je te baptise journaliste.
Voilà, cette adaptation de Balzac signée Xavier Giannoli obtient 15 nominations. Les Illusions Perdues pourraient donc succéder à Adieu les cons, le film d'Albert Dupontel qui avait triomphé l'an dernier avec 7 Césars. Les deux autres favoris cette année se prénomment Annette et Aline. 11 nominations pour Annette, l'opéra rock de Léos Carax, et 10 pour Aline, la comédie très musicale de Valérie Lemercier sur la vie de Céline Dion. Et derrière ce trio de têtes, on retrouve le polar Bac Nord avec 7 nominations et la comédie dramatique La Fracture, 6 fois nommée. Titane de Julia Ducournau, Palme d'Or à Cannes, et L'Événement d'Audrey Diwan, Lion d'Or à Venise sont chacun nommés 4 fois. Même chose pour Onoda, cet impressionnant film de guerre tropicale récemment auréolé du prix Louis de Luc. Un film, en revanche, brille par son absence Kaamelott. Aucune nomination pour la comédie médiévale d'Alexandre Astier. Plus gros succès français de 2021 avec 2 700 000 entrées.
Et la cérémonie, c'est le 25 février. Et quels sont les films à ne pas manquer cette semaine? Ça, c'est la sélection cinéma du jour de Corinne Pellissier. Bonjour Corinne.
Bonjour.
D'abord, en cette année électorale, 2 films qui parlent de politique à l'affiche cette semaine. Une drôle d'expérience d'abord.
Avec un avenir politique baptisé sobrement municipal autour d'un candidat qui s'est présenté en 2020 à la mairie de Revin, dans la vallée de la Meuse. On fait connaissance, je vous explique.
Laurent Papeau, voilà. Lucien.
Enchanté.
C'est le candidat dont je t'ai parlé.
Ah oui, d'accord.
Tu voyais pas qui c'était, c'est lui.
Alors voilà, Laurent Papeau, certains d'entre vous le connaissent peut-être. Il est metteur en scène, comédien. Et ce que vous allez voir dans le film, eh bien, c'est une expérience qu'il a menée avec les habitants de la ville qui l'ont engagé pour jouer les candidats. C'est-à-dire qu'il va se présenter, créer une liste, essayer de gagner. En tout cas, c'est son pari, hein. Et puis, il va devoir partir parce que son contrat, élu ou pas, se termine au soir du scrutin. Toute la campagne, tout le film repose sur cette expérience que l'on va suivre à la manière d'un documentaire. Ce n'est pas toujours très bien filmé, il y a même un petit côté un peu amateur parfois, mais c'est une expérience qui a libéré la parole à une époque de forte abstention. Évidemment, bah c'est toujours intéressant. Oui, oui. L'idée n'étant ici pas de proposer un candidat en plus, mais de proposer autre chose pour une ville autogérée.
Alors, nous passons de la vallée de la Meuse au 9-3, comme on dit, la Seine-Saint-Denis. Isabelle Huppert, en maire de banlieue parisienne, dans Les Promesses, qui sort aussi ce mercredi.
Avec un angle pas souvent traité au cinéma, celui de la politique urbaine et des logements insalubres. Isabelle Huppert en duo avec Reda Kateb dans le film, qui aimerait bien, avant de accroché à obtenir un plan de sauvetage pour une cité privée de sa commune, où les logements depuis des années ne valent plus rien, entre la vétusté, les pannes, les marchands de sommeil qui ont fait main basse sur toute cette misère. C'est un film qui nous montre de manière assez réaliste le travail des élus de terrain, mais également les jeux de pouvoir et l'immense cynisme qui peut régner parfois en politique quand les convictions ne sont plus en phase avec l'agenda personnel.
Et c'est un film France Inter. Terminons avec Sandrine Kiberlin qui est pour la première fois derrière la caméra. Elle nous raconte l'histoire, c'est le titre d'une jeune fille qui va bien.
Voilà, elle s'appelle Irène, elle a 19 ans. Nous sommes en 1942 au tournant de la guerre et cette jeune fille passionnée de théâtre, joyeuse, amoureuse, on va la suivre dans son quotidien, auprès de sa famille, dans un grand tourbillon de vie, à des moments pourtant que l'on sait, nous spectateurs, avec le recul absolument innommable, car la famille d'Irène est juive. Rebecca Mardor de la Comédie Française est sublime dans le rôle de cette jeune fille qui pétille en récitant du Marivaux et fait mine surtout de ne jamais s'inquiéter, y compris le jour où apparaît cette mention en rouge sur sa carte d'identité, l'horreur de la guerre, toujours filmée hors champ. Sandrine Kiberlin qui choisit ici la vie pour ne pas oublier les visages derrière les atrocités de la Shoah.
Une jeune fille qui va bien, mais aussi Les Promesses et le documentaire municipal. Voilà les 3 conseils de Corinne Pellissier cette semaine. En bref, la bataille pour les foires d'art contemporaine à Paris. Le groupe suisse Art Basel est retenu pour succéder à la FIAC. C'est ce qu'annonce aujourd'hui le Grand Palais. Et puis le sport, en bref, 20h30 ce soir, la France joue sa place en demi-finale de l'Euro de handball face au Danemark. En tennis, Alizé Cornet qualifiée cette nuit et le quart de finale, Oji Aliassime et Medvedev en cours à l'Open d'Australie, on se dirige vers un 5e set. Et en foot, match en retard de la 20e journée. Ce soir, Angers, le 12e, reçoit Saint-Étienne qui est bon dernier. La météo dans un instant.
Entreprendre, c'est toujours une grande aventure. Mais trop souvent, entreprendre rime avec attendre. Attendre l'ouverture de votre compte pro, attendre qu'un conseiller prenne votre appel, attendre que vos virements soient effectués. Attendez, vous n'en avez pas assez d'attendre. Alors passez chez Conto, le compte qui facilite la vie des pros. Avec Conto, ouvrir un compte pro en ligne ne prend que 10 minutes. La gestion de vos notes de frais se fait en temps réel et vous profitez d'un service client ultra réactif 7 jours sur 7. Conto, le compte au service des pros.
Mathilde Thomas, fondatrice de Caudalie, nous parle de son innovation anti-âge, premier cru, la crème. Après 10 ans de recherche, nous avons breveté avec l'Université de médecine de Harvard une nouvelle technologie inspirée de la science de l'épigénétique. Résultat, premier cru, la crème corrige les 8 marqueurs de l'âge. Rides et ridules, taches et éclats, élasticité et fermeté, hydratation et volume. Donc zéro compromis sur l'efficacité. Et pas de compromis non plus sur la naturalité et l'éco-responsabilité avec son packaging rechargeable.
Nouveau premier cru de Caudalie. Disponible en pharmacie, parapharmacie et sur caudalie.com. Packaging signifiant emballage. Plus d'informations sur nos engagements et produits sur caudalie.com.
Le temps de ce jour.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs, fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Des petits soleils jaunes en bas de votre dessin, des nuages en haut.
Effectivement, et un peu comme hier, les régions de la moitié nord se retrouvent sous une vaste couverture nuageuse. Alors le relief des Vosges, du Jura et du Morvan émerge de ces grisailles et une petite tendance au morcellement se dessine à proximité de ces massifs, ainsi qu'entre la Vendée, la Sologne et le Berry. L'ouest de la Bretagne gardera de belles éclaircies cet après-midi. En revanche, entre l'Ille-et-Vilaine, les bords de la Loire, la Normandie, les frontières du Nord, la couche nuageuse restera compacte et les coins de ciel bleu seront quasi inexistants. Entre les Charentes, l'Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes et les régions méditerranéennes, l'après-midi sera baigné de soleil. Alors quelques poches de grisailles pourront tout de même persister dans la vallée de la Garonne et puis sur le Lyonnais, les nuages bas seront encore plus tenaces. Le ciel restera même parfois gris. Les températures maximales sont un peu justes pour la saison. On trouvera quand même une belle douceur autour de la Méditerranée, le long des Pyrénées. À peine 2 degrés à Dijon, Strasbourg et à Reims, 4 degrés pour Paris, Cambrai, Nantes et Lyon, 7 degrés à Brest, Dieppe et Cognac, 8 degrés à Toulouse, alors qu'il fera 12 degrés à Aurillac et Marseille, 14 degrés à Pau et Ajaccio et 17 degrés pour Perpignan. À noter aussi un peu de vent entre la vallée du Rhône, le littoral provençal et les caps de la Corse.
Sébastien Léas, Météo France, il est tout juste 13h30.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Quels moyens pour l'enseignement supérieur en France? Le sujet a fait irruption dans la campagne électorale le 13 janvier dernier. Discours d'Emmanuel Macron devant les présidents d'université. 4 points à retenir dans la voix du président pas encore candidat. Il envisage une remise en cause du double système grandes écoles université. Il s'indigne de l'ampleur de l'échec en première année où la moitié des étudiants ne se présentent pas aux examens. Il pointe un enseignement qui ne coûte presque rien aux étudiants mais n'empêche pas la précarité et limite l'autonomie des universités. Et il plaide pour plus d'autonomie des universités mais aussi pour qu'elles soient plus professionnalisante. Alors faut-il voir dans ce discours un pas vers une augmentation des frais d'inscription à l'université? Je n'ai jamais dit cela, se défend le président. Quel changement nécessaire? 01 45 24 7000, l'appli France Inter aussi pour vos questions. Deux invités jusqu'à 13h45, Gabrielle Fac, professeure d'économie à Dauphine, co-autrice d'une note pour le Conseil d'analyse économique sur l'investissement dans l'enseignement supérieur. Bonjour. Et bonjour Manuel Thunon de Lara, pardon, président de l'Université de Bordeaux et de France Université. Bonjour monsieur.
Bonjour.
On va tout de suite commencer avec une question de François. Bonjour François.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour à France Inter.
Nous vous écoutons François.
Ben, merci de prendre ma question. Alors voilà, on assiste depuis 10 ans à une stagnation du budget de l'État concernant l'enseignement supérieur, alors que parallèlement le nombre d'étudiants lui a augmenté de 20%. À la part individuelle, mais c'est d'autant par étudiant.
Gabriel Fac, oui, allez-y.
En même temps, on fait des cadeaux à travers des allègements fiscaux, suppression de l'ISF, etc., à des gens qui ont 50, 60, 70 ans et plus, même des centenaires. Alors je voulais savoir si c'était comme ça qu'on envisageait l'avenir d'une nation.
Merci.
On peut dresser le même constat concernant les hôpitaux, les transports.
D'autres services publics. Merci François pour votre question. Gabriel Fac, est-ce que vous ratifiez le constat budget de l'enseignement supérieur qui stagne alors que le nombre d'étudiants augmente?
Oui, tout à fait. Les chiffres montrent ça vraiment. Il y a eu en fait une décision volontariste d'augmenter l'accès au baccalauréat. Et donc le baccalauréat donne l'accès à l'enseignement supérieur. Et donc on a depuis une vingtaine d'années une augmentation de l'accès à l'enseignement supérieur. Et les budgets n'ont pas suivi. Et donc effectivement, depuis en particulier 2010, on a une baisse de la dépense par étudiant parce que les budgets n'ont pas augmenté suffisamment pour compenser l'augmentation des effectifs.
Est-ce que rapporté à des pays comparables, l'investissement de la France dans l'enseignement supérieur est plus haut, plus bas ou dans la moyenne?
Alors, il est à peu près dans la moyenne de l'OCDE, mais il y a un certain nombre de pays qui font beaucoup mieux que nous, en particulier des pays comme les pays nordiques, le Danemark. Il y a aussi l'Allemagne qui fait bien aussi, plutôt mieux que nous. Et donc du coup, en fait, par rapport à des pays similaires à nous, on n'est pas forcément les mieux placés. Et en plus, ça a décroché depuis 2010.
Manuel Thunon de Lara, est-ce qu'on en est à un stade, là, à l'aube d'un nouveau quinquennat, où pour progresser dans l'accueil des étudiants, dans leur encadrement, dans la compétitivité des universités, il faut maintenant un investissement plus massif que ce qui existe aujourd'hui ?
Oui, absolument. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur les constatations qui sont faites et qu'on partage, que le président de la République, d'ailleurs, a partagé avec nous. Aujourd'hui, il faut un investissement bien plus massif sur les formations. Il faut une loi de programmation pour que, en particulier, les encadrements soient à la hauteur. Un des problèmes, c'est la réussite des étudiants qu'on pointe du doigt. Mais derrière cette réussite, vous avez beaucoup d'inégalités en termes d'encadrement. Mmh. Et l'autre aspect, c'est la recherche. L'université française, c'est le premier opérateur de recherche en France. Il y a eu une loi de programmation, mais vous demandiez des comparaisons internationales. Oui. On n'est pas du tout aux 3% qu'on s'était fixé en termes européens. Et là, on a un vrai retard qu'il faut combler sur ces deux versants de l'université française.
Est-ce que vous, président d'université, ça vous aiderait s'il y avait une augmentation des frais d'inscription à l'université ? On est à 170 euros aujourd'hui par an en licence, 243 en master. La Cour des comptes, par exemple, suggère de passer à 730 euros en licence.
Non. Je vous donne un chiffre de mon université que je présidais jusqu'à il y a quelques jours. Mon budget est de 609 millions. Les droits d'inscription, de licence, ça doit être à peu près 2 millions. On va toujours se situer dans un pourcentage
qui est très bas,
qui donc est inférieur à 2% par rapport à votre budget.
Ce que vous dites, c'est que jouer sur les frais d'inscription n'aurait pas d'impact majeur sur votre budget.
La loupe des frais d'inscription n'est pas, de mon point de vue, la bonne loupe. D'un point de vue, pour la charge des familles et des étudiants, on augmente cette charge, on accroisse les inégalités. Et ça n'est pas ça qui va résoudre le modèle économique de l'université française, à moins de basculer dans un tout autre système anglo-saxon. Mais on va même à l'encontre de la Constitution qui dit que l'éducation, la culture, l'enseignement doit être un accès pour tous dans le pays.
Question d'Isabelle au Standard. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour.
Et les questions de l'Université de Bordeaux, justement.
Disons que moi, je suis plutôt sur la formation des professeurs et la recherche aussi. Et ce que je constate, je partage les constatations de mes collègues, à savoir que la recherche n'est pas suffisamment étayée, financée par l'État, que le travail des enseignants-chercheurs n'est pas suffisamment reconnu et subventionné. Et par ailleurs, comme l'a dit la collègue, il y a eu 30 000 étudiants de plus depuis 10 ans et on recrute 2000 enseignants-chercheurs de moins chaque année. Et du coup, par exemple, les étudiants qui font une thèse ont beaucoup de mal à trouver un travail.
Gabriel Fac, est-ce que vous voulez réagir à ces propos ? Et sinon, j'ai une question sur le taux d'encadrement. Alors, j'y vais direct sur le taux d'encadrement dont parlait Manuel Thunon de Lara pour fixer les chiffres. Vous dites que le taux de réussite en DUT, je crois qu'on dit BUT aujourd'hui, est plus de deux fois supérieur à ce qu'il est en licence. C'est avant tout lié au taux d'encadrement. Donc, l'investissement, il doit être mis là-dessus.
Oui, donc nous, on a un des travaux qu'on a fait dans le travail que j'ai publié, c'est justement de regarder quelles étaient les différences de coûts entre les différentes formations quand on s'intéresse vraiment aux coûts de formation. Parce que souvent, effectivement, dans la dépense d'étudiants, on prend en compte à la fois la recherche, la formation, les aides aux étudiants, etc. Mais là, on s'est intéressé vraiment particulièrement aux formations. Et en isolant les dépenses qui étaient liées aux formations, on s'est rendu compte qu'il y avait des différences extrêmement fortes entre les dépenses pour des étudiants en licence par rapport à des étudiants qui soient en classe préparatoire ou en BUT. Mmh. Et en fait, quand on regarde d'où viennent ces dépenses, donc c'est un peu de l'ordre de 1 à 4, c'est-à-dire il y a 4 fois plus d'argent qui va être dépensé sur les étudiants, en particulier en classe préparatoire par rapport à un étudiant en licence. Et quand on regarde d'où ça vient, ben ça vient essentiellement effectivement de différences liées au nombre d'heures et au taux d'encadrement. Et donc, il y a des taux d'encadrement qui varient de l'ordre de, effectivement, 2 à 3 fois plus d'enseignants par élève en BUT ou en classe préparatoire par rapport à un élève en licence.
Manuel Thunon de Lara, on pourrait faire valoir, s'agissant des classes prépa, qu'après tout, c'est le coût de l'excellence, que l'excellence a un coût. Quand le président de la République envisage, alors sans aller plus loin, une remise en cause du double système grandes écoles-universités, comment ça peut être remis en cause ? C'est-à-dire, est-ce que vous, université, vous pouvez petit à petit absorber les grandes écoles ? Comment ça peut se passer ?
Non, je crois qu'il s'agit pas d'absorber les grandes écoles, mais d'abord l'excellence elle est partout, l'excellence elle est à l'université, il y a des cursus qui ne se font qu'à l'université. C'est beaucoup plus difficile de réussir en médecine que dans bien des écoles après des classes prépa. Mais il y a une profonde inégalité dans l'encadrement. Ceux qui encadrent dans les classes préparatoires, ce sont des professeurs qui viennent de l'université, qui ont été formés à l'université. Pourquoi y aurait-il cette différence de talent, de compétences? Et puis, de plus en plus, les universités s'intéressent effectivement à ces classes préparatoires. Certaines peuvent être intégrées. Et il y a un lien à faire avec le lycée. C'est ce qu'on a également dit lorsqu'on a partagé nos conclusions avec le président de la République.
De ce point de vue-là, il y a une candidate à la présidentielle, Anne Hidalgo, qui veut supprimer Parcoursup. Est-ce que pour ce lien avec le lycée, Parcoursup est un système satisfaisant ou est-ce qu'il faudrait en changer ?
Écoutez, Parcoursup, c'est une évolution par rapport à un système qui était APB, dans lequel on avait des tirages au sort.
Et qui faisait hurler tout le monde à l'époque.
Voilà, et qu'on a peut-être tous testé comme parents. Donc, Parcoursup, le supprimer ne servirait à rien. Il faut probablement l'améliorer, il faut mieux le documenter, il faut mieux l'articuler avec les programmes des universités. Il y a une marge, évidemment, de progression dans l'orientation. Et peut-être traiter cette forme d'inégalité qui existe et qui n'est pas qu'à ce moment-là des études, qui vient avant dans le système de l'éducation. C'est-à-dire que certaines, dans un environnement familial donné, eh bien, on va être mieux informé pour être mieux orienté et mieux réussir. C'est peut-être à ça qu'il faut travailler.
Autre intervention au standard. Caroline, bonjour Caroline.
Oui, bonjour. Alors moi, je voulais parler de quelque chose qui me tient à cœur rapidement. C'est concernant donc les écoles de commerce. Voilà, je ne comprends pas pourquoi en France, les écoles de commerce, qu'elles soient publiques ou privées, soient aussi onéreuses. Alors oui, on va peut-être me dire qu'il existe aussi la filière BUT pour faire du commerce, mais je pense que sincèrement, c'est moins reconnu sur le marché. Et donc, je ne comprends pas que ça soit aussi cher, qu'il n'y ait pas d'école de commerce publique gratuite, comme par exemple les écoles d'ingénieurs.
Gabriel,
c'est plutôt mon parcours et donc voilà, mon fils qui fait une école de commerce est obligé de passer par un prêt pour pouvoir y accéder.
Gabriel Fac sur cette question.
Oui, en effet, c'est vrai que comme il y a un sous-investissement public dans les universités, il y a le secteur privé en train de se développer très rapidement dans l'enseignement supérieur en France, qu'il est peu régulé, qu'il est peu transparent. Et donc, non seulement ça coûte cher, mais en plus, c'est très difficile pour les parents de savoir exactement quel va être l'intérêt et la valeur d'un diplôme dans un certain nombre d'institutions privées. Et donc, nous, dans la note, on dit qu'il faut vraiment avoir beaucoup plus de transparence sur quels sont les salaires à la sortie, quels sont les coûts, parce que nous, on a essayé d'avoir de l'information sur quels étaient vraiment les coûts de formation dans les écoles de commerce et on a eu une fin de non-recevoir et donc on a essayé de calculer par nous-mêmes quels sont les coûts de formation dans les écoles de commerce, qui nous arrivait à la conclusion que probablement les dépenses de formation sont peut-être moins élevées que les coûts qui sont payés par les étudiants, parce qu'en fait, ils supportent aussi des coûts liés à la recherche, etc. Et donc, il n'y a pas du tout de transparence sur les coûts, et c'est très important pour qu'il y ait plus d'informations là-dessus, pour que les parents puissent vraiment choisir en connaissance de cause.
Emmanuel Tunon de Lara, l'idée d'une plus grande transparence, information sur le salaire à la sortie d'une formation, les emplois disponibles à la sortie d'une formation, ça j'imagine que vous signez dès demain. Pourquoi c'est pas en place? Ça semble assez simple à mettre en place ce genre d'indicateur.
Je pense que c'est en partie en place. Si vous nous interrogez sur des masters, on va vous dire il y a 92% d'insertion, il y a tel salaire au bout de 18 mois. Ça rejoint d'ailleurs les salaires des écoles. Le problème, c'est le premier cycle. Parce qu'il y a une partie du cycle qui n'est pas professionnalisant. Dans l'étude qui a été faite par la Fac, on voit très bien qu'entre une licence générale et une licence professionnelle, le résultat est complètement différent et qu'on peut donner très précisément du salaire,
en faveur
l'insertion
de la licence professionnelle.
Une licence professionnelle et qu'on a intérêt à professionnaliser plus le premier cycle et à ne pas le considérer comme le départ d'une formation tubulaire, comme si on était partis tous pour 8 ans d'études. Et je pense que cette approche de premier cycle et de compétences dans le premier cycle, dont d'ailleurs le pays a besoin, sur les entreprises en ont besoin. Ça, c'est un chemin qui reste à parcourir à l'université.
Gabriel Fac, ce que vous suggérez aussi dans votre note, c'est de renforcer les quotas pour les boursiers, pour les étudiants qui ne résident pas en Île-de-France.
Oui, bah ça vient effectivement d'un constat qu'on fait dans la note d'une forte inégalité d'accès à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire que un enfant qui est issu d'une famille moins aisée a trois fois moins de chances d'accéder à l'enseignement supérieur qu'un enfant issu d'une des familles les plus aisées. Et donc on essaye de faire un certain nombre de recommandations pour essayer d'améliorer les choses. Et donc à la fois d'augmenter les aides financières, d'augmenter aussi le logement pour les étudiants, mais également effectivement d'avoir une approche volontariste et d'augmenter en fait les quotas qui existent déjà dans Parcoursup mais qui sont pas assez importants pour vraiment changer les choses.
Manuel Thunon de Lara, il nous reste une poignée de secondes. Le président de la République plaide pour des formations professionnalisantes tout au long de la vie et que les universités doivent mettre en place. Petit 1, c'est possible. Petit 2, c'est une source de revenus pour vous?
C'est possible, c'est une source de revenus qui est marginale par rapport au budget. Oui. Et je pense qu'il y a un point fondamental dans tout ça. Il faut considérer ça comme un investissement pour le pays. C'est investir dans l'université, ça a un retour en termes de croissance, en termes de progression de salaire, en termes de compétences, en termes d'éducation. C'est cette approche-là qu'on demande d'avoir pour l'université française.
Merci à tous les deux d'être venus dans les studios de France Inter. 13h44.
France Inter, le 13-14.
À suivre dans le 13-14, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Des Russes du 19e auraient-ils inspiré Jeff Bezos et Elon Musk?
Oui, parce que c'est la recherche de la vie éternelle. Et puis, comment peupler l'espace, un courant russe, le cosmisme.
Le vif, dans 10 minutes avant cela, le feuilleton avec un médecin légiste cette semaine. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Bruno.
Depuis 20 ans, il est l'un des leaders du groupe Girls in Hawaii. Le chanteur et guitariste belge Antoine Vilmans se lance en parallèle dans une carrière solo. Il sera demain soir en concert à Saint-Avertin en Indre-et-Loire dans le cadre de l'Intime Festival. Concert au cours duquel on pourra découvrir son album Vatteto.
Vatteto, c'est le nom du village normand où il a composé cet album solo, premier album solo. Et premier album sur lequel on l'entend chanter en français, et c'est d'une chanson en français qu'Antoine Vilmans a choisi de me parler, une chanson de Mathieu Bogart, extraite de Michel, son quatrième album studio, paru en 2005.
Cet album-là, j'ai découvert quand j'étais en vacances chez des amis pendant un mois et demi, deux mois, entre deux tournées, deux grandes périodes de tournées. C'est des amis qui sont luthiers, qui fabriquent des violons, des violoncelles et des instruments classiques, et je les ai rencontrés et puis ils m'ont invité dans leur atelier pour apprendre un peu la lutherie avec eux. Et en fait, ce disque-là, je l'ai découvert quand j'étais dans leur atelier, il venait de sortir, la fille de ce couple était raide dingue de Mathieu Bogart, donc elle l'écoutait 10 fois par jour, tous les jours, pendant un mois et demi, et c'était le mois et demi justement où j'étais là. Et c'est bizarre parce que les premiers jours, je me suis dit, waouh, ça va être relou d'écouter le même album, je connaissais pas. Et bizarrement, au début, sa voix qui est un peu particulière à Mathieu, j'étais pas trop fan. Donc les 2-3 premiers jours, presque ça m'insupportait. Et en fait, il y a vraiment eu un retournement dans mon cerveau. Le troisième jour, c'est moi qui demandais de le remettre.
Une bonne nouvelle végétale, une carte postale. Une carte postale l'accompagne. Regarde le ciel comme elle est belle. Cette carte postale de Michel. Avec un mot pour toi, pour moi, pour nous. Des mots sur des choux, partout des coucous. Une bonne nouvelle.
Et cette chanson, Frédéric a pour titre, on l'aura compris, une bonne nouvelle.
Et c'est la première plage de cet album de Mathieu Bogart, un album dont Antoine Vilmans a aimé finalement toutes les singularités.
Le dépouillement, la sincérité, le naturel dans sa voix et dans ce qu'il racontait. Tout était toujours tout doux, tout cotonneux, tout proche. Enfin, je sentais qu'il y avait quelque chose d'étrange derrière ce disque qui m'a complètement fasciné.
Pourquoi cette chanson-là, dans cet album-là?
Parce qu'elle ouvre l'album et que pour moi, c'est un peu la Madeleine de Proust, en fait, dès que je l'entends, dès que j'entends les premières notes. Et parce qu'elle raconte un truc super intime, un peu particulier, qu'on n'est pas toujours sûr de comprendre. Il parle en même temps, je pense, de l'arrivée d'une naissance dans ses amis, ou peut-être d'une relation d'amour. C'est un peu mystérieux, on sent que c'est très personnel. Et aussi parce qu'au milieu, chaque fois qu'il y a un refrain, il y a un coup de cymbale que je trouve incroyable.
De toute façon, c'est dans l'ordre des choses. Penser à autre chose. Si quelque part en France
cette chanson-là, cet album-là. Ils ont participé à votre envie de chanter en français?
Oui, parce que à cette époque-là, j'écoutais pas beaucoup de choses en français. Et ça m'a fait un bien dingue, en fait, parce que j'arrivais plus beaucoup à écouter de musique. J'étais tellement en train d'écrire, de composer avec Girls que j'avais du mal à me distraire, à me détendre et à réapprécier la musique comme avant, ce qui me rendait un peu triste. Et en fait, là, c'était un peu la découverte d'une autre sphère. En fait, les paroles sont plutôt joyeuses, mais et en même temps de la mélancolie. Mais en y réfléchissant bien, moi, je me rends compte que dans les matières artistiques, que ce soit en peinture, en littérature, c'est le type d'émotions et de sensations que je préfère et que je trouve les plus belles, en fait, qui me touchent le plus, quand c'est lié à une forme de mélancolie.
Si quelque part en France, si quelque part ma chance ne passait pas.
Une bonne nouvelle, Mathieu Bogart, c'était donc Frédéric Lechoix du guitariste et chanteur belge Antoine Villemans.
Qui vient de sortir son premier album solo, Va de tôt, et qui sera en concert demain soir au Nouvel Atrium de Saint-Avertin, en Indre-et-Loire.
Une semaine dans la vie d'un médecin légiste, c'est notre feuilleton jusqu'à vendredi grâce à Mathilde Vinceneux. Mathilde a suivi le docteur Jean Iquet qui exerce à l'hôpital de Pau, le légiste incontournable dans les enquêtes pour violences sexuelles notamment. C'est l'épisode du jour.
Alors ce matin, nous avons une victime de violences conjugales. Nous avons aussi une mineure de 9 ans victime d'agression sexuelle par son grand-père. Et un autre dossier de violence conjugale. Et puis là, nous sommes sollicités en urgence pour une victime qui aurait subi un viol là cette nuit. Là, on va se préparer 2 écouvillons buccaux pour l'ADN de référence de la victime. Et 2 écouvillons vulvaires, 2 écouvillons vaginaux. Geneviève, vous avez le kit avec vous, là?
Qu'est-ce que vous allez chercher pendant cet examen avec tous ces prélèvements?
On va rechercher sur la peau des traces de violence. On va s'intéresser particulièrement au niveau du cou, aux régions périsexuelles aussi, à la face interne des cuisses, la poitrine, pour voir s'il y a des lésions qui peuvent traduire des gestes traumatiques, de contraintes. On va regarder bien évidemment au niveau génital s'il y a des lésions à l'aide donc de ce vidéocolposcope. Et puis effectivement, les écouvillons visent à rechercher de l'ADN d'un ou des mises en cause et la toxicologie. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de tout ce qui est utilisation du GHB dans des contextes de violence sexuelle. Donc par exemple, on va faire des prélèvements de sang et d'urine pour rechercher notamment ce type de substance aussi. Alors ce que l'on va faire, c'est que vous allez passer à côté et puis on va vous donner une enveloppe en papier craft dans laquelle vous allez placer vous-même votre sous-vêtement. D'accord ? Et il sera éventuellement remis aux enquêteurs s'ils nous le demandent. D'accord ? Allez, on va passer à côté. Est-ce que vous voulez que l'infirmière vienne à côté de vous là? Ouais. Vous débrouillez très bien, vous êtes très courageuse. Allez. Ça va? On y va doucement. On fait les choses par étapes. Voilà ce que j'ai prélevé, c'est ce qu'on appelle un élément pileux. Ça peut être un poil pubien, mais qui ne ressemble pas au vôtre, donc je l'ai prélevé, d'accord ? Là, vous avez une toilette juste en face, c'est bien, la porte de droite. Le test de détection du sperme positif. La barre témoin, la barre contrôle qui s'affiche, donc ça veut dire qu'il y a eu un contact récent avec des composants du sperme. Et donc c'est un argument de plus qui vient s'ajouter aux autres dans le cadre de la collecte des preuves. C'est une étape qui est importante parce que pour les victimes qui sont récemment traumatisées, on va faire partie des premiers intervenants de la chaîne. Les victimes, dans ces moments-là, ce qui leur importe, c'est surtout de pouvoir rentrer chez elles, de pouvoir se laver et puis pas forcément de raconter ce qui s'est passé ou de subir un examen. Donc c'est important de mettre du sens dans ce que l'on va faire. Parce que c'est là que l'on va faire des constatations objectives, recueillir un maximum de preuves, et que c'est ce temps-là qui va aussi garantir parfois, voire même souvent, le bon déroulé après d'une procédure judiciaire, parce que quand on a des preuves constatées initialement et qui sont incontestables, ça rend le dossier judiciaire plus solide.
Semaine dans la vie d'un médecin légiste, feuilleton de Mathilde Vinceneuf, réalisation Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Comment faire le lien entre la Silicon Valley et la Russie des 19 et 20e siècles? C'est le défi des minutes à venir. Jean Lebrun, point de départ du vif de l'histoire aujourd'hui, Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, et Elon Musk, celui de Tesla. J'ajoute dans le cocktail le livre d'un bon connaisseur de la Russie, Michel Elchaninov, et le concept de transhumanisme. Alors Musk et Bezos d'abord, qu'y a-t-il dans leur tête?
Eh ben, il suffit d'écouter ce qu'ils disent. Le transhumanisme tout armé. Quand vous roulez en Tesla, sachez qu'Elon Musk songe à des implants dans le système nerveux qui mèneraient l'intelligence artificielle au fonctionnement de notre cerveau. Et quand vous achetez un livre de Michel Elchaninov chez Amazon, sachez que Jeff Bezos investi dans des recherches sur le retardement du vieillissement. Bon, alors après, notre congélation au lendemain de notre mort et notre réactivation ensuite, ou simplement parce que nous vivrons plus longtemps. Il n'y aura plus de place
sur Terre.
Aussi,
oui.
Ces messieurs du transhumanisme nous préparent-ils des fusées pour coloniser les astres? C'est d'une logique imparable.
Alors, le transhumanisme est un produit typique de l'école libertarienne, telle qu'elle s'incarne aux États-Unis, à destination des plus libres, des plus intelligents, entre guillemets. Mais Michel Elchaninov, venons-en à son nouveau livre, Lénine a marché sur la Lune. Il entre dans la tête d'une série de Russes qui ont développé une autre utopie qui est comparable, dites-vous, le cosmisme.
C'est lui qui le dit. Alors, il faut considérer que la Russie, c'est un pays immense, un paysage sans fin. On s'y déplace un peu comme un cosmonaute dans l'espace, en flottant, c'est ce que soutient Elchaninov. La plaine est parsemée d'églises orthodoxes, construites sur le même modèle, les quatre murs signifient la Terre, la coupole renvoie au cosmos. Pas étonnant que tant de Russes se soient portés vers l'espace. Ainsi, un étrange personnage, bricoleur de vaisseaux spatiaux, considéré comme l'ancêtre des satellites soviétiques, il se nommait Konstantin Tsiolkovsky, 1867-1935. Elchaninov, qui a écrit aussi dans la tête de Poutine, ne manque pas de signaler le respect que lui manifeste le président russe au point de lui donner le nom de la station de lancement qui va remplacer Baïkonour. Tsiolkovsky, c'est plus facile à prononcer Baïkonour, disait évidemment que l'homme était appelé à peupler le cosmos tout entier et à vivre éternellement. Alors on pense aussitôt à Lénine, que ses successeurs ont momifié pour préparer, qui sait, sa résurrection. Le prolongement de la vie semble d'ailleurs avoir préoccupé pas mal d'idéologues de la jeune URSS, ainsi Bogdanov, qui prôna la transfusion sanguine pour apporter la jeunesse, jusqu'à ce qu'un échange malheureux avec un jeune étudiant l'envoie de vie à trépas, c'était en 1928. Mais à la réflexion, les bolcheviks cherchant l'homme nouveau, il n'est pas étonnant qu'ils aient poussé les feux jusqu'aux extrêmes. Et puis dirait Poutine, il y a dans la Russie une force vitale supérieure à celle des autres pays.
Force vitale qu'on retrouve dans un courant né dans le même entrechoquement d'idées autour de 1900 que le bolchevisme et qu'on appelle, on y vient, le cosmisme.
Un vieux bonhomme l'a incarné, Nicolas Fiodorov, 1869-1935. C'est un peu l'équivalent d'un starets dans un monastère, le sage qu'on vient visiter de loin. Mais lui dirigeait une bibliothèque publique. Et s'il conservait les livres du passé, il ne gardait rien de son argent. Il vivait dans une cellule austère et il enseignait que tous les morts qui nous entourent pourront ressusciter si nous constituons une union des fils qui relèveront les pères de leur tombe. Toujours ce thème de la résurrection. Sous le marxisme-léninisme officiel, eh bien, les sectes, le chamanisme, l'occultisme ont curieusement survécu, vous savez, comme l'eau courante sous une couche de gel. Et la figure de Fiodorov a pu ressurgir comme intacte. Alors, quelle connaissance en a-t-on chez les transhumanistes américains? Elchaninov se livre là-dessus à des conjectures. Ce qui compte, c'est la coïncidence des espérances dans deux mondes qui se veulent exceptionnels, le russe et le californien, et aussi le contenu de ces espérances. L'homme associé à l'ordinateur en Californie, l'homme appuyé à Dieu dans la vieille Russie, c'est la même quête de la vie éternelle.
Michel Elchaninov, Lénine a marché sur la Lune, c'est publié aux éditions Solin, Actes Sud. Bonjour Mathieu Vidard.
Et bonjour Bruno.
Comment ça va hein?
Très bien, transition toute trouvée avec Elon Musk, puisque nous allons chercher des traces de vie sur Mars, nous, la Terre au carré.
À tout de suite.